Bonjour tout le monde, enfin bonsoir, bienvenue pour ce petit café littéraire au coin du feu avec une rencontre autour de Serge Pellet et de son œuvre magistrale, donc Orbital. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, on va commencer. Combien il y a de tomes exactement et combien il y a de tomes à venir?
Écoute, il y en a 5 aujourd'hui, je suis en train de terminer un 6e.
Ça marche ton
oui, je crois. Et écoute, on n'a pas prévu d'en faire 30 000, hein, donc on écrit par des petits. On est en train de préparer un 7 et 8e en fait. Voilà.
Le 7 et 8e, et donc voilà. La série se terminerait 7 et 8e.
Bon, écoute, on verra. C'est pas vraiment décidé, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter la genèse, en fait, de cette aventure? Parce que 7 et 8 albums, ça veut dire à peu près une dizaine d'années quand même de vie,
oui,
consacrée à un même univers. Ça veut dire, bah, j'imagine, beaucoup d'investissements personnels, beaucoup d'obsessions. Tu vis avec tes personnages,
hein, oui, là, surtout moi, parce que je suis pas scénariste, je ne vais pas d'une histoire à l'autre.
Donc, bah oui, voilà. Les cracheurs de bijoux, c'est voilà. Les copains avec qui tu vis toute la journée.
Ouais, ouais, pas vraiment, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu, ça peut être sclérosant aussi, un peu. C'est normal.
Alors comment c'est arrivé? Comment tout est arrivé?
Oh, c'est arrivé assez c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, c'est arrivé. Écoute, j'avais laissé quelques plans chez Dupuis. Sylvain avait écrit un premier tome, le premier tout seul. Et il y avait. Tu m'entends pas? Vous m'entendez?
Vous l'entendez?
Lui m'entend pas.
Bon alors c'est moi. Ok.
Et donc si tu veux, Dupuis a essayé de trouver des dessinateurs pour Sylvain et ça n'a pas collé. Et au bout du troisième, il a demandé à donc de trouver un dessinateur, voilà.
Ah, au bout du troisième.
Du troisième dessinateur.
Ah, voilà. Troisième dessinateur, d'accord. Ils avaient.
Donc voilà, ça c'est comme
c'était
ça.
C'était pas plus avancé que ça.
Et c'est comme ça que j'ai reçu un coup de téléphone pour faire un essai sur cette série, voilà, qui n'existait pas en fait.
Et alors, dans ton parcours, par exemple, ce type de graphisme, c'était vraiment ce que tu souhaitais mettre en avant dans un projet aussi, j'irais pharaonique quand même, parce que 10 ans qu'on s'est fait.
Au départ, on partait sur deux, hein, sur une histoire de 100 pages, donc c'était tout, hein, au départ.
D'accord, ça s'est déroulé petit à
voilà.
Petit.
On n'a pas prévu de faire ce qu'on a fait là, par exemple.
Et alors, avec Sylvain Rundberg, donc lui, je sais qu'il ne vit pas en France.
Non, il vit à Stockholm.
À Stockholm. Et alors, comment ça se passe dans, c'est lui qui te fournit toute la trame narrative ou est-ce que vous en parlez ensemble?
Alors que maintenant, oui. Alors au début, le premier, évidemment, il l'a écrit tout seul. Mais si tu veux, après, maintenant, hein, on a beaucoup de discussions avant qu'il commence à faire un séquencier. Donc il fait un travail de séquence uniquement. Mais avant ça, en fait, on parle ensemble de beaucoup d'objets, de tout ce qui peut être, de tout ce qui va être les thèmes principaux de l'intrigue, de la nouvelle intrigue. Donc en gros, il ne part pas comme ça tout seul. Il y a déjà des discussions pendant que moi je fais par exemple le 6, je parle du 7 quoi.
D'accord, et tu lui dis par exemple, bah, tiens, il y a tel élément, je l'ai utilisé dans le 6 ou dans le 5, j'aimerais bien le réutiliser, j'aimerais bien l'exploiter, le pousser, des choses comme ça. Ou il y a
oui,
beaucoup
ou
de.
Alors, mais en tout cas, avant qu'il commence à écrire vraiment le scénario, il y a d'abord ce travail sur le séquencier quoi. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se met d'accord.
D'accord.
On essaie de se mettre d'accord là-dessus, avant qu'il commence à écrire quoi que ce soit en dialogue. Et aller un peu plus précisément dans le.
Ok, c'est en premier la forme, en fait.
Voilà, une espèce de grosse colonne vertébrale assez basique, quoi.
Et le, tu lui fournis crayonné, j'imagine et,
on n'a pas beaucoup d'échanges, en fait.
Il n'y a pas beaucoup d'échanges?
Non. En fait, j'aime bien aussi pas lui balancer, c'est-à-dire que j'essaye de j'amène des concepts en cours de réalisation, de mise en scène, donc il y a des choses que je ne lui propose pas, quoi. C'est-à-dire que je lui envoie à la fin, quoi.
D'accord.
Voilà. Merci.
Merci monsieur Manchu. Recyclage de monsieur Manchu. Excusez-nous. Alors, à quel moment est intervenue la nécessité de créer un hors-série? Parce que ce hors-série, moi, il m'a pas mal intrigué quand même. Parce que. Il traite plus de la méta-histoire, il traite plus de tous les éléments. J'ai l'impression qu'à chaque album, il y a tout un univers qui est développé, que l'on perçoit pas forcément dans les albums eux-mêmes, et que vous êtes prêt à en faire une bible de 100 pages à chaque album, en fait. Les recettes de cuisine,
on peut pas, on peut pas développer. C'est-à-dire qu'en gros, on développe plus un peu les univers, mais en même temps, ça donne envie. Mais est-ce que c'est utile? Vraiment, je sais pas. je sais pas. Là, le hors-série, c'était prévu depuis longtemps, mais moi, je voulais pas le faire au départ. Voilà. Je n'étais pas d'accord.
Pas d'accord sur quoi, alors?
Sur le fait d'en faire un tout de suite, comme ça, quoi. Alors, c'était déjà à partir du premier ou deuxième tome. Déjà, ils voulaient faire un hors-série, mais je n'étais pas vraiment chaud, moi. Et alors, on attend un petit peu, quoi.
Et alors, l'envie d'inviter d'autres artistes à travailler dans l'univers, ça s'est venu comment, par
exemple? Parce que alors, ça c'était décidé aussi à l'avance, quoi.
D'accord.
Voilà. Mais par contre, voilà, quand ils ont décidé, alors évidemment, on n'a pas choisi forcément les dessinateurs. Hein. C'est l'éditeur qui nous a proposé, quoi. Et je les ai quand même, moi, laissé vraiment bosser. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. En plus, c'est des histoires qui se passent un peu avant, quand même. Donc, ils ne sont pas forcément tenus d'être
respectueux de.
D'être emprisonné là-dedans. Alors, c'était je m'immisçais vachement dans leur boulot et j'allais leur rendre la vie pas possible, ou alors je les laissais bosser, quoi. Et c'est ce que j'ai préféré faire.
Alors, en feuilletant quand même, on s'aperçoit qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui te tient en termes de graphisme et qui vous tient en termes de création d'histoire, c'est l'amusement. J'ai l'impression que vous vous amusez. À inventer des noms de population.
Alors sur le hors-série, ça a été quand même un truc qu'on a fait. C'est-à-dire que moi j'ai fait des illustrations et il a écrit des histoires en fait après.
D'accord. Donc
c'était pas forcément ça s'est fait dans l'autre sens.
C'était un rôle un petit peu inversé.
Voilà, je lui ai balancé des illustrations, je lui ai dit maintenant tu t'émerdes avec ça.
Mais alors dans le moteur de l'histoire, j'imagine que maintenant j'ai plus l'impression que vous travaillez un petit peu à deux quand même en ping-pong. Moi, ça m'a fait penser presque à du Jack Bounce, quoi. Le côté on explore des mondes, il y a une jouissance à découvrir les coutumes de chaque peuple rencontré, enfin, c'est bigarré, c'est baroque, c'est coloré. J'ai retrouvé ce plaisir de la lecture de Jack Bounce, du cycle de Chai, par exemple, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent te parler ou est-ce que ça te semble complètement étrange?
Oui, je lis très peu de SF.
D'accord, bah, c'était la question.
Très peu d'aventure, mais je ne dis pas beaucoup de SF, même quasiment pas, en fait. Donc c'est vrai que.
Alors les influences, du coup, elles viennent d'où alors? Alors, dans ton parcours, c'est plus le cinéma, plus les images, plus.
Alors écoute, j'en ai. Je suis plutôt de la génération métal hurlant, moi.
On sent un petit amour pour Moebius, on sent.
Pour Mézières, oui. J'avais gagné un concours de dessin. À l'époque, et j'avais gagné 500 balles, et j'ai dû aller m'acheter les 8 épisodes de Valérian, je crois.
D'accord.
Après, dans le cinéma, c'était plutôt Blade Runner, et tous les films fantastiques qu'on pouvait voir, toutes les élections d'Avoriaz qu'il pouvait y avoir dans les années 80. Blade Runner, évidemment, qu'il y avait d'autres encore. Évidemment, les Star Wars, c'est du plus tard, en fait. C'est que c'est pas quelque chose que j'ai découvert tout de suite, quoi.
Oui, pourtant, c'est vrai qu'on est quand même proche d'un univers comme ça, peuplé de mille créatures différentes,
etc. Et il n'y a pas de temps de bande dessinée, en fait, on n'est pas nombreux. Hein.
Non, en tous les cas, pas de cette manière-là. Parce qu'il y a vraiment un plaisir du trait. Moi, j'ai ton trait un peu rond, comme ça, je trouve, rend la lecture fluide. C'est pas dans le cadre, par exemple, des bandes dessinées explorant des mondes. Ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, il y a Léo par exemple avec Aldébaran, avec les Elgueuse, avec des choses comme ça, mais du coup rien à voir en termes de graphisme. Il a un trait beaucoup plus sec, ça fonctionne tout à fait au niveau scénario et autres, bien entendu. Mais là on a une découverte du petit détail, on a la petite créature cachée au fond de la case, des trucs comme ça, on a l'impression que tu t'amuses quand même à rendre la page fourmi, enfin ça fourmille quoi, ça fourmille l'idée.
Bah écoute, j'essaye en tout cas d'y mettre de l'amour. Sans amour, ça va être la merde, quoi. Donc oui, quand même, j'essaye d'y t'en mettre un maximum, quoi.
Et alors quand tu passes... tu passes combien de temps sur un album à te donner de l'amour comme ça, dans un seul sens, avant d'en recevoir?
Là, je suis en train d'en terminer un, et je peux dire que celui-là, il m'aura coûté, quoi. Je sais pas pourquoi, ils sont jamais tous... ils sont pas vraiment identiques, mais celui-là, le prochain, qui s'appelle Résistance, m'a vraiment posé des problèmes, quoi. Je me suis cassé le coude, je me suis cassé la main, enfin bon bref.
Au crayon?
Comment?
Avec le crayon?
Non, 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 en faisant du vélo. Mais bon, ça a été entrecoupé, haché, on a eu plein de... voilà. Donc ça a été compliqué.
Et est-ce que, alors tu parles d'entrecoupé, ça me fait, disons, rebondir sur une autre problématique. Est-ce que tu fais des travaux, par exemple, intermédiaires? Est-ce que, même pas dans la maison, je veux dire, en termes d'illustration et autres?
Alors, tu fais des illustrations à côté, mais non, je fais plus qu'Orbital, moi, en fait. Je suis vraiment consacré uniquement à ça.
Et est-ce que par moment, par exemple, le fait d'être sur le gaufrier, hein, sur le rythme découpé du séquencier fourni par Sylvain, par exemple, est-ce que tu n'as pas envie de temps en temps de faire péter une double page et dire bon, ben cette fois-ci, je fais une illustration et si ça ne passe pas dans l'album, on en fera autre chose?
Non. Bah, tu sais, on a 54 pages et si on commence à s'amuser à faire les dessins sur une grande page, c'est un peu du boule, quoi. Non, on n'a pas. Il n'y a pas vraiment de place, quoi. C'est pour ça qu'il faut en 54 pages, en 400 plans, arriver à raconter une histoire. Donc, si c'est juste pour me faire plaisir, faire de l'illustration, c'est pas intéressant. Parce que là, j'en filme d'à côté, quoi, tu vois. D'ailleurs, le hors-série, c'est comme ça. Moi, je fais que j'ai pas fait de bande dessinée en hors-série, c'est juste des illustrations. Voilà, ok, d'accord, là, je prends mon pied. Mais sinon, à l'intérieur de la bande dessinée, il n'y a aucune raison que j'aille, en plus, venir intervertir dans ce qui aurait été prévu. Si jamais on décale une
page,
c'est juste impossible.
Et au niveau du séquencier, tu disais que Sylvain te le fournissait, vous mettiez d'accord là-dessus, et donc c'est quand même un sujet à discussion. C'est quand même
là, c'est pour la composition de la colonne vertébrale du récit, c'est là où on a du rythme, c'est là où on se dit que voilà, à la page 15, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a raconté déjà, quoi. Et si c'est si on sent vraiment que c'est nous qui a rien, faut revoir ça. Je sais que sur certains albums, on a été vraiment. Il est reparti plusieurs fois, retravaillé sur justement dans
son. Pourtant, il n'est pas son premier scénario.
Ouais, mais c'était pas grave. D'ailleurs, le sixième, c'est pareil. Il a été vraiment hyper dur. Et en plus, on l'a retravaillé ensuite après cette ancien. Donc là, c'est aussi pour ma gueule, parce que finalement, il y a des choses qui ne marchaient pas, mais on les a pas vues tout de suite, quoi.
Et alors, l'avis d'un dessinateur d'Orbital, c'est quoi, par exemple? Combien de jours par semaine de travail, le dessin, comment tu procèdes? L'ancrage, c'est uniquement sur papier?
Moi, je travaille au feutre, à l'alcool, enfin au feutre, à l'alcool. Je travaille à l'alcool,
ouais. C'est pas...
Non, je travaille au feutre, à l'alcool, à la gouache, je travaille un peu, je suis vraiment traditionnel, quoi.
Et les originaux font quelles une planche, par exemple, tu procèdes de manière découpée, tu scannes et tu remets tes planches, ou est-ce que la planche est complète?
Ah non, elle est complète. Voilà, il n'y a pas le texte dessus évidemment, mais sinon vraiment elle est complète, elle est deux fois plus grande que le tirage. Quoi.
Ce qui est vrai, alors quand on a monté Les Enfants de Fosse, donc l'exposition, où je vous invite à aller voir le travail de Serge, c'est vrai qu'à aucun moment il ne m'est venu l'idée que je te demande en fait des originaux. Mais est-ce que tu exposes tes originaux en fait, avec la galerie Daniel Languen en fait?
Oui. Alors j'en ai fait une il y a 4 ans, là j'en fais une autre au mois de mars prochain.
Et est-ce que par exemple dans ce cadre de valorisation de ton patrimoine, est-ce que par exemple on peut espérer avoir un art-off consacré à Serge Pellet par exemple? Tous les vider les tiroirs, les illustrations.
Tu veux dire un
artbook, quoi.
Peut-être. Mais pour l'instant non.
Mais il y aurait matière.
Ouais, il y aurait matière, mais tu sais, faut comme je suis pas l'ordinateur, quoi. J'ai vraiment des dessins partout, quoi. Donc c'est vraiment une galère pour scanner tout ça. J'en peux plus, moi, j'en ai marre en fait. Donc j'ai des grands formats, ça me fait chier. J'ai pas de grands scans, donc il y a plein de dessins que je vais pas scanner. Et si jamais demain je décide de faire ça, ça va vraiment être une galère, quoi. Faut vraiment que je trouve quelqu'un, quoi.
Oui, après, bon, peut-être que ça peut être un jeu avec l'éditeur. Ça peut
ou alors, il faut que j'en fasse 10 par jour. Enfin, tu vois, c'est un truc, voilà. Donc, c'est une espèce de... Je sais pas, on verra peut-être plus tard, quoi. Les plus importantes, les illustrations, les grandes, j'essaye de les shooter, d'avoir des traces. Et sinon, j'ai tout un tas de croquis, de recherches, de machins. Enfin, bon, bref, c'est... On pourrait sûrement, sans doute, en faire quelque chose, mais c'est un peu complexe, quoi, tout ça.
Et quand on voit alors les créations, par exemple, alors tu peux nous raconter un petit peu la genèse de Erko, par exemple, comment ce personnage est apparu?
Ah ben non, mais moi, c'est ça, si tu parles de ça, de l'Erko, mais ça, c'est, tu parles de... Tu vois, ça, c'est la bande dessinée que... Mantelot, c'est Mickey, je crois, non, c'est ça?
D'accord, ça, c'est les...
Ouais, ça, c'est l'histoire que lui, il a dessiné, qu'il n'a même pas réussi à dessiner, d'ailleurs, parce que finalement, il avait tout le temps. On a fait que des illustrations.
Okay.
Au départ, il devait faire 8 pages, et puis après, il était en train de dessiner Millennium, je crois, à l'époque. Et Millennium est passé devant nous. Donc voilà. Merci Sylvain.
Et ton personnage, donc les personnages Racontons-nous la genèse d'un personnage. Quoi. Tu fais des croquis, tu t'inspires d'un voisin.
Pour Mesokier, par exemple, quel personnage dans les premiers temps a créé. Donc, Sylvain ne m'a pas donné de précision. On m'a dit tout simplement que c'était un extraterrestre et qu'on n'est même pas tombé sur l'aspect féminin, en fait. C'était un extraterrestre au départ. Voilà.
Mais ce mystère. Ouais.
Alors, moi, au départ, j'avais commencé à faire un personnage qui avait un petit peu cette tête-là, noire, avec des pupilles. Et puis, j'ai enlevé les sourcils, j'ai enlevé les pupilles, je l'ai tout enlevé, en fait. Je me retrouve avec un masque noir, avec des yeux oranges. Il n'y a pas vraiment de. On ne peut pas vraiment.
Mais c'est un personnage assez improbable, parce que bon, le côté entièrement noir comme ça, je ne crois pas qu'il y ait d'autres.
Si, il y en a plein.
Ah bon ?
Oui, il y en a. Bah, il y en a. Si.
Je sais pas, aussi.
Si, mais peut-être que c'est pas dans un univers de direct comme ça, quoi. Donc, sinon, des personnages avec une tête toute noire, il y en a.
Oui, non, mais je ne te parle pas d'un dessin à la Sin City, par exemple, ou des choses comme ça.
Non, mais.
Là, bon, on a un personnage qui est vraiment. Un trou d'obscurité, presque, je dirais.
En fait, l'idée, c'était que voilà, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer vraiment dedans. Quoi. Il faut qu'elle reste derrière. Enfin, que ce soit comme si on n'arrivait pas vraiment à savoir si elle est contente ou pas, si elle était heureuse ou pas, ou si elle était en colère ou pas. Enfin, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Quoi. Un peu comme si on était devant un extraterrestre. Donc, on n'arrive même pas à capter ses émotions, quoi. En tout cas, on aurait du mal. Et là, du coup, avec ça, le fait d'enlever les pupilles aussi, parce que là, les pupilles, ça enlevait vraiment. Il y a une direction d'œil. Donc, elle est un peu chiante aussi à manipuler, puisque. Il faut que tu lui tournes la tête vraiment pour que quand elle regarde, alors que je pourrais juste faire ça avec les yeux, là vraiment je suis obligé de lui faire tourner les épaules et la tête. Quoi. Donc et puis elle reste un peu figée quoi. Mais du coup elle reste mystérieuse et impalpable.
Et alors qu'est-ce que. Là tu es presque en train d'achever en fait l'épopée.
Non, on fait une fin de cycle là.
Voilà. Fin de cycle. Fin de cycle. Fin de cycle qui va rester. Où le cycle reste ouvert ou. Nous en dire plus
Ben c'est vrai que là finalement on a fait comme une espèce de suite aussi hein, mais en fait ça se fait en diptyque hein, en histoire de 100 pages mais c'est vrai que le sixième c'est vraiment quelque chose qui ferme un peu tout ça quoi on raconte et on ferme des portes qu'on a ouvertes dans les premiers albums maintenant dans le prochain le 7 et 8 on repart sur une histoire en 100 pages avec nos deux diplomates qui essayent de régler quand même des problèmes quoi.
Et quand tu passes 10 ans de ta vie consacrée à un seul univers. Bon, là ça fait un peu. Mais est-ce que tu as envie de pousser un peu ailleurs
bien sûr.
Là tu es plus près de la fin du cycle que du début, est-ce que tu envisages.
Je suis des fans de l'histoire. Il faut être franc que c'est quand même dur hein, de faire un album de bande dessinée. Donc quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que tu vois, tu fais que ça en plus, il y a un moment donné, c'est pas toujours fun. Il y a un moment donné, t'as envie de passer à autre chose. Mais bon, je suis pas non plus une brute du boulot, je me casse pas vraiment la tête dessus. Je me gratte quand même pas mal, mais en fait, dire que je ne suis pas tous les jours à ma table. Donc il y a des grandes plages de boulot, il y a aussi des grandes plages où je ne fais rien du tout. Quoi. Donc je ne m'assomme pas de travail. Quoi.
Oui, il y a quand même une petite pression à un moment donné de l'éditeur
là,
qui te dit.
Non.
Il te reste.
Non, l'éditeur, c'est un peu. Voilà, on collabore, on n'est pas c'est par mon patron. Quoi. Donc de toute façon, les pages, si elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Moi, je me dis, c'est clair. Après, ça dépend. Si tu les veux tout de suite, on les fait tout de suite. Mais. Ce sera pas terrible quoi.
Alors
tu vois l'éditeur il a c'est pas à lui de te dire il faut que ce soit prêt. C'est à toi de te dire ça quoi. L'éditeur, bon évidemment quand on a calé une date, il faut la tenir quoi.
Et je sais donc tu as fait l'école Brassard.
Oui.
Parle-nous un petit peu de tes débuts de dessinateur.
Et
je crois qu'il y a plusieurs.
Il y a Manchu, il y a Freddy aussi,
dans la salle.
Écoute, on a fait ça, mais. Bah oui, c'était il y a longtemps. Quand même. Et puis maintenant, il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a une à Nantes, je crois, une à Caen.
Donc l'école de Tours
Nous, on l'a fait à la Tours, on a connu tonton Papy Brassard, on a connu le fils, on a eu la famille, quoi.
Et alors, c'est une ville qui crée une bonne émulation pour les dessinateurs, parce que manifestement, il y en a quand même quelques-uns.
Je crois qu'elle est pas chère au niveau du loyer, c'est pour ça, en fait. Mais Brassard, c'est une école qui transforme forcément. Enfin, là, en fait, je ne sais pas pourquoi les gars, ils s'en vont pas, quoi. Ils restent à Tours, ils font leur étude, puis après, hop. Mais bon, moi, j'ai tous mes potes là-bas, donc c'est un peu.
Et toi, le fait de rester, par exemple, en province, ne t'a pas gêné pour le travail avec un éditeur parisien?
Surtout qu'il n'est pas parisien, tu vois, il était belge au départ. Donc, c'était à Marseillais, c'était en Belgique. Donc non, ça pose pas de problème, non. Non, non, c'est fini ça maintenant.
Oui, mais du coup, tu es obligé de scanner tes dessins pour les envoyer. En fait. Ah non, on revient à ça.
Non, je peux pas les scanner, j'ai pas de scan assez grand pour ça.
Alors les planches couleurs, elles sont en couleur directe.
Voilà.
Avec l'ancrage.
Avec un ancrage. C'est pas pour un ancrage parce que moi je fais un ancrage en même temps. C'est-à-dire je mets la couleur avant l'ancrage. Enfin, c'est un peu tout ça, c'est un peu en même temps. Quoi. C'est une espèce de truc. C'est l'espèce de soupe que je fais. C'est une espèce de bidouille quoi. C'est une technique que j'utilisais quand je faisais du design pour le dessin animé. Et c'était assez rapide. Je bossais sur les nudes avec des feutres, des crayons. Et on faisait des photocopies, on montait un petit peu les trucs avec une palette graphique très rapidement pour essayer d'avoir juste des recherches. Et je montais tous les volumes au feutre, quoi. C'était rapide. Et je me suis dit, voilà, j'avais déjà fait des bandes dessinées traditionnelles avec le bleu, les traditions. J'étais là en train de serrer les fesses quand tu ancres et tout. Et à chaque fois, tu flingues un peu ton dessin. Puis c'était minable, mais j'étais vraiment une bite à la plume, quoi. Et je me suis dit, il faut que tu travailles avec un truc où t'es à l'aise, quoi. Donc j'ai pris cette technique-là et je me suis pas emmerdé à savoir si ça se faisait ou pas. Je me suis dit, je vais la faire comme ça.
Ouais, couleur directe. Bon, on sent effectivement le mélange.
Puis après, c'est plus abalandi aussi. Il y a des trucs que j'ai balancés parce que c'est pareil. J'avais pas non plus une gamme de feutres incroyablement grande. Donc je travaillais avec des gris et puis un petit peu de gouache et je faisais des variations de couleurs sur l'ordi ensuite.
Et alors tu sors de Brassard, qu'est-ce qui se passe après?
Alors, il ne se passe pas grand-chose, je vais travailler dans la publicité pendant quelques mois, mais j'arrête très vite. Quoi. Parce que c'est juste pas possible. Quoi. Voilà.
Et alors de fil en aiguille,
bon, écoute,
tu te dis la bande dessinée ou...
Non, même pas, non, mais j'ai rencontré Freddy que j'avais quitté 4 ans après, 4 ans avant.
Freddy Martin.
Donc, et donc il est à Tours à l'époque, moi je suis à Paris, je reviens, enfin bref, il me branche... Je fais mon pitching, un premier album de commande chez Vendouest avec Musdi en 93 et en fait ça je viens à la BD à ce niveau-là quoi, à ce moment-là on fait deux
et
albums
dans la série G donc c'est
ouais alors nous c'est pas la collection c'est pas la série G c'est pas la c'était pas ça non c'était pas la collection G c'était ou c'était un truc en relation avec un jeu vidéo qui s'appelait Prisoner of Ice qui était un des titres de jeu de jeu informatique, on va dire, à l'époque où il y avait encore Infogrames et puis Ubisoft qui se tapait la bourre, mais enfin surtout Infogrames qui avait sorti Alone in the Dark et puis Prisoner of Ice. Et on avait fait, ils avaient fait une série de trois albums, chacun en avait fait un, et on avait 4 mois pour faire un album, voilà. Ça c'était le
92,
93.
Alone in the Dark, ouais, je connais.
Ouais. Donc voilà, on est arrêté comme ça dans la BD, quoi. C'était un peu hardcore. On s'est fait défoncer évidemment, on a vendu plus d'un album, mais c'est pas grave, on était contents.
Et donc Orbital, c'est le job le plus long dans lequel tu es tenu, quoi, finalement.
Bah là maintenant oui, mais on a fait 2-3 albums. Après j'étais en faire un chez le Téméraire en 98, mais c'est pareil, cette affaire avec tournée court. Après j'ai fait un peu de dessin animé, un peu de design pour le jeu vidéo chez Ubisoft, mais bon, en gros, je suis revenu à la BD en 2003, 2004, quoi, et en 2005 avec Orbital.
Et alors tu parlais de la difficulté ou de la dureté quand même un petit peu du métier. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec François Bourgeon lors de sa table ronde sur les pressions des éditeurs, les pressions des diffuseurs surtout. Et aujourd'hui, par exemple, avec bon, les quelques petites modifications
qui se pointent,
avec l'IRSEC, par exemple.
Oui, avec la complémentaire.
Donc, comment ça se passe là-dedans? Tu te sens impliqué? Tu te sens dépassé? Tu te sens acteur? Tu prends part à des discussions? Bon, en bande dessinée, il y a quand même le syndicat national qui est quand même assez important.
Oui, j'en fais partie d'ailleurs. Mais c'est bien, il faut que ça se bouge, quoi. Maintenant, faut pas trop imaginer que ça va bouger. On n'est pas très nombreux. J'ai pas mal de copains qui sont intervenants du spectacle. Eux, ils sont dans un autre. Ils essayent de défendre leur statut, par exemple. Nous, on n'en a même pas. Donc, là, c'est au moins essayer d'en avoir un. Faire un état des lieux, justement, de la bande dessinée. Et puis, c'est vraiment un bordel, quand même. C'est franchement le bordélique.
Oui, disons. Bon, toi, on est d'accord, tu as quand même la chance d'une série qui fonctionne.
Alors, moi, je parlerai pas pour moi, parce que franchement, oui, moi, je m'en sors plutôt bien, quoi. Mais c'est pas le cas de la majeure partie.
Voilà, on est d'accord, voilà. Effectivement, sur 10 dessinateurs BD, il y en a 8, 8 et demi qui...
Mais c'est vrai que c'était dur quand on a commencé, c'est sans doute encore plus dur aujourd'hui.
Et alors, est-ce que... moi, par exemple, sur les illustrations, sur la bande dessinée, j'ai jamais compris que ça ne fasse pas partie du syndicat du livre, simplement, en fait. Parce qu'en fait, ça reste un livre. T'as l'impression qu'il n'y a que les acteurs qui sont sur la fabrication, sur la création, qui, eux, sont exclus de la chaîne du livre, en fait.
Et c'est bien que ce soit par exemple la chaîne du livre qui nous paye notre complémentaire retraite. Moi j'aimerais bien que ce soit les diffuseurs, un petit peu tous ces gens-là, quoi, finalement, parce que eux, ils ont une retraite, ils doivent être convenables.
J'imagine.
Sans doute plus convenables que la nôtre.
C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses un petit peu étranges sur les auteurs. Par exemple, la TVA qui augmente sur le livre et sur l'auteur, tout le monde gueule, et la TVA ne baisse que sur le livre. Elle est restée sur l'auteur un bol manifeste.
Sur les droits d'auteur.
Pour les droits d'auteur.
Ouais, bon, il faut savoir que la majorité des auteurs ne touchent pas droits d'auteur, déjà.
Oui, on vit sur une avance des planches, quoi, en fait. On est d'accord.
80% des gens ne touchent pas droits d'auteur. Donc, si tu commences à pinailler sur de l'argent qui ne touche pas, Donc, et puis ceux qui en touchent, peut-être pas forcément de problème d'argent.
Alors, est-ce que le métier de dessinateur de bande dessinée, comment tu vois, par exemple, les 15 prochaines années? Allez, vas-y, lâche-toi.
Écoute, je suis pas Madame Soleil, moi, hein, je sais pas trop, quoi. J'ai l'impression que ça va quand même se faire encore à l'arrache, et que ça va quand même se faire encore au détriment du petit gars qui bosse, c'est tout, quoi. Voilà, si t'en veux, ben, tu y vas, quoi.
C'est des métiers qui vivent sur la probabilité du succès, en fait. C'est ça que tu veux dire dans le...
Bah, moi, je crois qu'il faut être opiniâtre pour faire ce boulot-là. Si t'as vraiment... Tu vois, si tu attends vraiment de gagner ta vie, t'es mal barré, quoi, ça c'est sûr déjà. Le mieux, je propose que quand même que tu aies une copine qui travaille dans l'éducation nationale pour servir. Parce que moi je connais.
S'il y a des copines de libre qui travaillent dans l'éducation nationale.
Je connais plein qui ont des copines, comme ça ils arrivent à faire une BD, même si elle marche pas, c'est pas grave. Ils veulent en faire un deuxième et tout, enfin tu vois. Mais c'est quand même compliqué. C'est vrai que si tu es tout seul et en plus que tu fais de la BD, je crois que franchement tu travailles, il faut faire autre chose, il faut faire un petit peu de graphisme, sans doute autre. Peut-être un peu de dessin animé, parce que tu fais du dessin animé, t'as plus le temps de faire de la BD. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que ça prend du
temps. Mais tu as fait du dessin animé un petit peu, par
exemple,
cette expérience. Ça t'a servi pour le découpage, ça t'a servi pour...
J'ai fait du storyboard, mais c'est vrai que c'est pas vraiment la même chose, mais bon, c'était plutôt agréable. Moi, je travaillais avec Quack à l'époque, pour une série qui s'appelait Malo, et c'était franchement cool. J'étais au pré-design avant le storyboard, et je faisais des petites recherches, j'avais une semaine par scénario, et c'était...
C'est le lien avec le jeu vidéo qui t'a amené à ça, ou comment ça s'est
fait? Non, c'était quoi que, parce que voilà, il m'avait proposé de venir bosser pour faire du pré-design, il voulait que je bosse avec lui sur ça, et donc moi j'avais arrêté la BD depuis 3-4 ans, je me suis dit tiens, j'avais fait un peu de jeu vidéo, un peu de design, machin, bon, je faisais un peu de meubles aussi, un peu de menuiserie, enfin bref, et puis ça me branchait bien d'essayer dans le dessin animé, c'était cool, quoi, c'était pas... Bon voilà, ça a duré 2 ans.
T'es un peu... Tu te considères comme artiste touche-à-tout ou vraiment axé sur la bande dessinée?
Non, mais là, j'essayais de gagner de l'argent, donc j'allais dans les dessins animés, on peut y gagner de l'argent, quoi, tu vois, c'était pas... Non, mais c'était agréable, moi je le fais dans une ambiance qui était sympa, c'était à la recherche, quoi, c'était pas... Je me suis pas tapé la prod qui était derrière, qui était quand même assez conséquente avec... Je faisais pas du storyboard non plus, quoi, avec quand même un stress...
Ces recherches, par exemple, c'est quand même des univers très différents en termes de rythme de travail.
Ben, quand j'ai lu Orbital, c'était pas mal, ça se rapprochait. C'était drôle, quoi. Il y avait des similitudes.
Et sur la manière d'aborder le travail, en fait, juste sur la journée, en fait, de travail. Tu passes d'un travail en équipe, que ce soit dans le jeu vidéo ou...
Ah non, mais là, à l'époque, je travaillais en équipe, oui, mais...
Après, et là, voilà. Tu te retrouves, boulot sédentaire, isolé...
Ouais, tout seul, ouais.
Est-ce qu'à Tours, vous montez un atelier où tout le monde bosse
ensemble?
Ils ont fait ça,
il y en a qui le font, il y en a plusieurs.
Oui, il y a Vincent Froissart.
On l'a fait aussi avec Vincent, avec Freddy, on l'a fait de temps en temps, on l'a fait ça 2-3 ans. Mais écoute, non, moi, je fume, en plus, c'est pas possible, c'est que des ateliers dans le fumeur.
Tu vas pas me dire qu'à Tours, il y a que des dessinateurs végétariens et non-fumeurs?
Bah écoute, je sais pas, mais bon, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné... Donc moi, ça aurait été bien, j'aurais pu arrêter de fumer, mais bon... Faut pas déconner... Et puis surtout, j'arrête pas de discuter, tu vois, et c'est franchement... Je pense que c'est pas une mauvaise idée que je travaille tout seul. Pour les autres, hein, je dis, parce que... Je peux plus te bordel aussi, quand même.
Et alors, quels défauts ils ont, là, tes deux enquêteurs, par exemple?
Quel défaut?
Ouais. Dans les tiens de défaut, ouais. comment avec Sylvain vous construisez un peu les
On n'est pas très très. On peut dire qu'avec notre pauvre Caleb, là, on est quand même depuis le début, on n'est pas cool, quoi. Donc il en prend plein la gueule, il ne sert pas à grand chose. Quand même, on n'est pas très gentil, quoi. Ça va s'arranger, mais on est plus délicat avec mes hoquets qu'avec lui, quoi. Je pense que Sylvain s'essuie un peu les pompes sur les mecs, en fait. Je ne sais pas pourquoi, il a cette espèce de.
On va faire une psychanalyse du scénariste, il n'est pas là, on va quand même pas
non plus. Je lui dis, putain, mais t'arrêtes pas de lui en foutre dans la tête, pourquoi qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu veux pas à un moment donné qu'il entreprenne quelque chose, qu'il fasse une action et qu'il, tu vois, que ce soit ce soit lui qui décide, quoi. Parce que sinon, il subit un peu beaucoup, là.
Il court,
il n'arrête pas, enfin, bon, bref. Ça s'arrange un peu dans le 6, quand même. C'est un peu son album, le 6.
Est-ce que tu as eu des sollicitations pendant la série Orbital, des sollicitations d'autres, d'autres scénaristes? Ou est-ce qu'il y a des scénaristes avec qui tu aurais envie de travailler, en
fait? Ah oui, mais écoute, j'ai d'autres projets que j'ai essayé d'amener à terme. Ouais, j'aurais envie de bosser avec d'autres gens, mais bon, en même temps, là, voilà, c'est tout, je peux pas tout faire, quoi. C'est juste pas possible.
Mais aujourd'hui, ta carte de visite fait que les projets que tu peux proposer seraient un peu plus écoutés, peut-être?
Non, pas forcément, mais cela dit, c'est vrai, quand tu vends, forcément, tu vois, on t'écoute un peu plus, quoi. Mais franchement, ça dépend du projet. Si je me compte avec un projet où j'ai pas envie de faire consensus et on a envie d'y aller parce que, je sais pas, enfin, n'importe quoi, hein, je peux dire n'importe quoi, mais un truc trash, bon, bah, je le ferai peut-être pas chez Dupuis parce que ça rentre pas chez eux, et puis voilà, enfin, c'est pas...
Oui, t'as travaillé, enfin, la série a démarré avec Antoine Louis-Jordan, c'est ouais. Ça, ouais.
Donc je sais pas, en fait, je sais pas. Je peux leur proposer des projets qui sont un peu éloignés de ça, quand même.
Alors, est-ce que tu as le temps de t'intéresser à d'autres types de supports, lire par exemple de la bande dessinée? Est-ce qu'il y a des auteurs qui te laissent sécher? Est-ce que...
Oh, écoute,
en série de SF, il y en a quelques-unes. Bon, là, en bas, par exemple, on a l'expo Les Enfants de France, il y a Benjamin Carré, il y a Denis Bajram, par exemple, avec Universal War. Est-ce que ça, c'est des séries que tu as lues? Ou c'est pas ta tasse de thé, quoi? Parce que c'est vrai que c'est bon, ça...
Ah si, non, mais attends, par contre, j'ai pas encore lu ça. Non. Ça, c'est des trucs que j'ai achetés, par contre. Mais j'en ai un certain nombre que j'ai acheté, que j'ai là, quoi. Et que je vais lire.
Quand t'auras le temps, quoi.
Bah, j'en ai lu quelques-unes quand je me suis pété la main, juste avant. J'avais le temps. Mais il y a des trucs que j'achète, quoi, voilà. Donc il y a des choses que... Alors, pas forcément de la SF, hein. Et c'est pas forcément de la bande dessinée non plus. Donc, c'est vrai que quand tu fais de la BD, tu peux en lire, hein, c'est pas un problème. Hein.
C'est pas... Est-ce qu'il y a par exemple des œuvres type roman et autres qui t'ont donné envie d'une adaptation, en disant tiens là, ouais, j'aimerais bien ça dessiner.
Ouais, mais c'est pas de la SF.
Par exemple, ce serait quoi? Pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui te...
C'était une idée, mais c'est un truc, c'est un premier roman, c'est de Chris, c'est comment ça s'appelle? C'est Le Seigneur des Porcheries. De Tristan.
Quelqu'un a lu Le Seigneur des Porcheries?
Personne n'a lu Le Seigneur des Porcheries. Écoute, mais je sais pas, ça fait peur, en fait. C'est un roman assez dense, assez... Mais c'est vrai qu'en l'ayant fini, je me suis dit, putain, ça...
Et ça rentre dans un genre spécifique, par exemple, toi, tes univers personnels...
Là, c'est plus Bukowski, quoi, c'est plus l'Amérique des années... tu vois, cette Amérique un peu dégueulasse, John Fante, quoi. D'accord. Voilà, ça fait penser un peu à ça.
Ok, du noir...
C'est du noir, ouais.
C'est plus ton univers, finalement. Si toi, par exemple, demain, tu prends un projet tout seul...
C'est un polar, par exemple.
C'est un polar
ouais.
Bien noir.
Ouais, qui bien noir, ouais.
Android, Fant et...
Ouais, un truc... ouais, je sais pas.
Ça promet, tu nous donnes envie, là. Ce serait quand même bien de trouver deux petites heures par jour.
Sur une adaptation comme ça, là, je suis en train d'essayer de faire une adaptation d'un spectacle d'un ami qui a fait un pastiche de Conan. Tu vois, c'est encore autre chose, mais... ça, c'est mon projet, c'est la prochaine étape.
Ok.
Donc c'est pas du tout de la SF, c'est pas du polar, c'est de l'humour, c'est de l'épique, c'est de la fantasy, mais c'est assez fin. On dirait un truc anglais.
Végétarien et anglais.
Ça c'est de l'adaptation, je sais pas comment je vais faire. Ce sont que des dialogues, c'est très drôle, mais ça me donne envie, ça. Le Seigneur des Porcheries, c'est Tristan et Goff, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, ouais, c'est dense, quoi. Tu te dis, tiens, je vais faire ça en adaptation, c'est waouh. Enfin, tu vois, t'as déjà à moitié peur, quoi.
Ah oui, donc c'est un petit peu moins rigolo qu'effectivement...
Ça, c'est fun, quoi, à côté.
Oui, ça a l'air fun,
tu vois, c'est sûr. Ouais. Si jamais je rentrais dedans, je pense que je serais vraiment immergé. Je pense que ma copine me quitterait. Et je crois que...
Ah oui, donc faut choisir. Et l'univers, par exemple, tu parlais des quelques collègues tourangeaux que tu vois, Vincent Froissart, par exemple, qui a un univers...
Alors Vincent, en plus, il travaille avec moi sur...
assez dark, finalement, hein, poétique, mais assez dark.
Oui, avec les voyages de Van Bult.
Et lui, il travaille avec toi,
ouais, il travaille un petit peu sur les couleurs avec moi sur le top 6.
Ah, tu ne nous avais pas dit ça.
Ouais, je lui ai demandé de venir m'aider parce que je suis en retard. Et donc, il fait un peu comme une espèce d'équivalent de master couleur, quoi. Donc il fait juste des petits réglages sur l'ensemble de l'album.
D'accord, et donc ça, on sent quand même une différence ou
non? Ah oui, non, l'idée, c'est qu'il se il est beaucoup plus fin que moi, moi je suis Brutus, en fait, voilà, lui il a cette finesse, quoi, voilà, je sais pas, depuis le début, hein, qu'on le connaît, ça fait quand même longtemps, au moins presque 30 ans, on a été à Brassard ensemble, et ouais, il a une approche de la couleur et des tons, et c'est vraiment particulier, quoi.
Alors, est-ce qu'il y aurait des questions à M. Serge Pellet dans le public avant qu'on le rende à ses obligations?
Allez-y.
Les influences sur la ville de Paris. Est-ce que ça te parle, ça, comme question?
Paris. Ah ouais, ou même, enfin oui, mais c'est vrai que tout ce côté un peu baroque. C'est vrai que les architectures en général, ça me donne envie, les perspectives.
Il y a des perspectives, on pourrait presque citer de temps en temps, je vais dire un gros mot, mais le cinquième élément, par exemple.
Moi, tu vois, par exemple, c'était plutôt Schuiten, qui ont été vraiment des bouquins qui m'ont donné envie de dessiner déjà.
Et on retrouve le Mézières, justement,
en termes d'illustration, tout ce qui était dessiné. Tous les lieux, quoi. Vraiment, chez Schuiten, il y avait tout ce côté. Architectural. J'attachais beaucoup
à Brassard, c'était l'architecture que tu préférais?
Pas du tout, non, il n'y a pas d'architecture à Brassard. C'était des études documentaires à Brassard, on faisait des choses assez, assez rigoureuses, quoi. Tu pouvais taper si tu voulais des trucs comme ça, mais c'était parce que ça pouvait intégrer une maquette, mais sinon tu tapais quand même, tu vois, du macro en études documentaires le mardi.
Tu vois. Et on reconnaît des quartiers de Tours, par exemple, dans Orbital ou pas?
Non, j'ai pas fait.
Pas encore dessiné la voiture de Manchu, par exemple?
Non, j'ai pas dessiné la bagnole de Manchu. Mais il en achète là maintenant, donc je sais plus laquelle il a.
Il arrête plus.
Il y en a plusieurs maintenant. Mais non, j'ai des trucs que j'en ai dessiné. Le prochain va se passer à Paris, dans un Paris détruit un peu. Mais j'aime bien, oui, si ça peut se. Bon, après, voilà, il y a quelques épisodes, quelques scènes qui se passent dans des lieux connus, mais c'est vrai toujours un peu chiant pour moi de dessiner quelque chose qui existe. Quoi. C'est un peu chiant, moi je trouve ça m'emmerde.
Oui, c'est quand même une question qui, quand on voit tes créatures, par exemple, c'est vrai qu'on se dit, on espère qu'il les a juste imaginées.
Ben ça, c'est pareil,
parce que c'est pas le voisin de palier.
C'est pas des trucs que j'ai forcément dans la tête, quoi. C'est des trucs qui se passent aussi sur la feuille de papier. Donc ça peut être suite à des accidents, ça peut être suite à des. Je retourne des feuilles, enfin, tu vois, c'est un peu. Des fois, je sais pas, il se passe un petit truc, j'ai envie d'aller dans cette direction, puis ça me donne encore une autre idée, et à la fin, j'arrive à. C'est un peu particulier quand même. Je suis pas en train de me dire, tiens, voilà, ça, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ça que je suis en train de faire.
Ah, parce que tu dis que t'es un petit peu. Feignant, on a dit, c'est ça un truc, enfin,
je suis pas feignant, mais je bosse pas tous les jours à 8h, c'est
à ton rythme
quoi.
Tranquille, mais sur certains dessins, on voit qu'il y a quand même beaucoup de recherche et beaucoup de, je dirais, d'expérimentation avant de retrouver le trait juste. Je sais, il y a une planche avec les différentes mains, par exemple, et ouais. C'est assez intéressant, quoi, les différentes créations de différentes directions.
Quoi. C'est un peu compliqué.
Il y a un côté jaillissement, quand même, de la création, qu'on sent ce côté riche dans la bande dessinée. Série.
Bah merci. Mais c'est pas voilà, j'arrive pas trop à expliquer comment ça se passe. Quoi. C'est pas quelque chose que j'ai dans la tête. C'est ça que je veux dire. En fait, voilà. Parce que le résultat et les choses que je fais en général sont pas vraiment des produits directement définis, sortis de. C'est pas, j'essaie pas de reproduire quelque chose que j'ai en tête. Quoi. C'est pas vraiment comme ça que je travaille en fait. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur la feuille.
C'est spontané.
Et c'est une espèce de parcours des fois un peu con, quoi, un peu chiant. C'est pas toujours du plaisir, hein. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Est-ce que tu as d'autres, pour donner un autre rendez-vous, est-ce que tu as d'autres séances de dédicace?
Eh ben écoute, d'ailleurs je ne savais pas que je dédicace aujourd'hui, je suis désolé, hein, parce que... Et donc demain je suis là, je ne crois pas que je dédicace demain, donc là je dois avoir 2-3 livres encore à faire. Et sinon, bah non, demain je ne dédicace pas, je crois. Enfin je suis là, si éventuellement il y a des gens qui...
Alors demain, on va te retrouver quand même à 13h, je crois, sur la table ronde des enfants de Fosse.
Oui.
On va parler avec Manchu,
on va parler avec papa,
Denis Bajram, et on va voir s'il va enfin accepter de vous reconnaître, enfin, quand même, après tant d'années.
Eh ben écoute, ce serait bien. Ouais. Si on pouvait repartir chacun avec une petite peinture, ce serait pas mal.
Ouais, moi, je crois qu'il serait d'accord.
C'est minimum.
Tout,
moi, je dis quand même.
Ouais. Tout
après toutes ces années d'absence.
Mais d'ailleurs, si tu peux nous en dire deux mots par rapport à cet univers, disons, baroque, disons, kitsch et coloré quand même, de la science-fiction qui a baigné notre jeunesse quand même, parce que ouais. Il y a quand même certaines parties de la science-fiction en images, il faut quand même l'avouer, qui étaient quand même super kitsch, et dans lequel nous, on a baigné par les lectures, les couvertures de livres et autres, et... Ça reste un petit peu. Il y a un regard nostalgique, moi je trouve, sur ce type d'image.
Et tu parles de la SF, quoi, des années 50, tu veux dire ? Alors, quand même,
60. Pas à ce point-là,
non.
je sais pas, enfin, entre 70 et 90, ça fait tant. Il y avait quand même des collections un peu baroques.
Avec les petites combinaisons dorées, machin.
Voilà, les petites combinaisons dorées.
Ouais, ouais. Ça fait peur.
Ça n'a plus tellement cours aujourd'hui, mais je trouve. Qu'il y a quand même un regard tendre là-dessus. Quoi. Et je trouve que cette tendresse est importante quand on voit les originaux de Chris Voss, par exemple. Il y a cette part.
Mais toi, tu l'assimiles à ça, toi. À cette période-là.
Ouais.
Parce que moi, je trouve qu'il sort. Il lui fait sortir des années 60, en fait. 50-60.
Oui.
Mais bon, il est encore plus kitsch, celle-là, du coup.
Bien sûr, mais bon. Moi, c'était modéré.
Ah ouais, donc d'accord, bah c'est effectivement, mais je dirais pas kitsch moi, mais bon. Après, j'imagine, moi je vois bien ce que tu veux dire. Mais moi, Chris Voss, moi j'ai dû voir en fait, j'ai dû voir un livre de lui, c'était sur des espèces de vaisseaux en ruine, je ne sais plus quoi, comment ça s'appelait ce bouquin là.
Je crois que c'est le 20th Century Fox.
20, ouais, je sais plus. Et puis des couvertures de bouquins quoi.
Oui,
après, je lis pas beaucoup de romans de SF, pour te dire, mais j'avais quand même, on n'avait pas beaucoup d'images à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'images de SF pure. Et c'est vrai que sur ces couvertures-là, il y avait tout. Quoi. Et ça, ça donnait vraiment du. Ça donnait envie. Quoi. Ça donnait envie. Je pense que ça nous a marqué. Voilà, ça, c'est des images.
C'est passé dans l'inconscient. Et puis même sans savoir que c'était lui, on avait la vision du vaisseau coloré.
Et ben, quand on m'a dit Christophe, j'ai dit merde, c'est qui Christophe, c'est tout. J'ai dit merde. Et j'ai tapé tout et j'ai dit bah oui mais je connais, ok, je me souviens, voilà. Ouais.
Bon, ben demain tu pourras lui dire.
Écoute, je sais pas si demain je lui dirais ça.
Tu l'as googlé. Bonjour monsieur Foss, je vous ai googlé. Bon, en tous les cas, moi je suis bien content de t'avoir rencontré pendant une petite heure autour de cette petite table comme si on était à la maison en train de boire quelques verres.
Ouais.
J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un peu plus le personnage qui se cache derrière chacune de ces créatures.
Il faut savoir qu'à chaque fois que vous achetez un album, il y a de l'argent qui nous est versé, on a fait des droits d'auteur, et avec ça, je vais pouvoir éduquer mes enfants. J'ai deux enfants et je vais leur faire des études, alors je ne sais pas trop où. Peut-être en Angleterre ou peut-être aux États-Unis. Et ça coûte très cher.
Mais surtout pas l'école Brassard, ils vont finir dessinateurs de BD.
Non, ils ne seront pas dessinateurs. Parce que je ne suis pas des poids, quand même, je leur dis, écoute, c'est bon. Fais autre chose. Essaye d'être original. Trouve ta voix. Mais d'abord, va faire la vaisselle.
Alors, à propos de vaisselle, on va rentrer les verres. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut le libérer ? Et donc, il n'y a pas d'institutrice ou de prof de célibataire dans la salle. Merci bien, monsieur Serge Pelé.
Eh ben, merci à toi.
Bonne continuation à toi. Et puis, moi, il me tarde tes deux prochains albums, mais surtout après, en fait.
Alors, on va déjà faire le 6, hein, tu sais, parce que moi j'en fais qu'un à chaque fois. Hein.
Oui,
mais. Et ensuite, il y en aura deux derrière.
Mais ouais. Après Orbital, on se revoit alors.
Eh ben écoute, oui, bah, pas après, il n'y a pas d'après, hein, je continue donc, de toute façon.
Bah oui.
À l'année prochaine, pourquoi pas.
Merci à toi.
Allez, au revoir, merci.